Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bon, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va parler de pas mal de petites choses que j'ai récupérées. Alors, on va parler un petit peu des actualités. Alors, les actualités, on va traiter divers sujets. Le premier sujet qu'on va traiter en termes d'actualité, c'est on va parler rapidement du végétarisme, un risque pour la santé mentale, point d'interrogation. Et vous allez voir qu'il faut pas raisonner de façon binaire sur ce sujet-là. Et ensuite, on va voir un test urinaire pour évaluer la qualité de l'alimentation, quelque chose qui va pouvoir aider les professionnels de santé liés à l'alimentation, à la nutrition, etc. À voir, hein, il va falloir suivre cette affaire un petit peu de près pour voir si même nous, on pourrait en profiter à terme. Et ensuite, je vais répondre à trois questions même, dont une qui va être traitée très rapidement en quelques secondes. Mais il y en a, la première, c'est au sujet du déficit calorique. Est-ce qu'il devrait être agressif ou progressif? On va parler également d'un programme de sèche que je propose. Est-ce que pour les femmes, c'est compatible ou pas? Et le dernier point, ça va être sur les lipides, donc la quantité de lipides quand on commence à baisser les glucides. Voilà, donc l'épisode du jour démarre. Si vous avez envie de me laisser un petit avis avant de démarrer, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes de podcast ou même sur YouTube, un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours du bien pour le référencement. Et puis, on démarre tout de suite. Alors, premier point qu'on devait traiter aujourd'hui. Alors, j'ai mon petit thé glacé à côté, un thé glacé que je vais boire maintenant. Donc voilà, petit thé glacé que je me suis fait moi-même ce week-end. Donc avant de démarrer, je vais vous donner rapidement la petite recette. Alors j'ai acheté du thé matcha, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui est en vrac, hein, pas en sachet, donc en vrac dans une boîte en fer, hein, tout simplement, avec de la menthe séchée. Et ce que je fais, c'est que dans une casserole, je fais frémir de l'eau, je la fais surtout pas bouillir. Je mets le thé dans une passoire très fine. Vous savez, les passoires très fines en fer, là. Je mets ça directement au-dessus qui baigne un petit peu dans l'eau, en fait, sur la casserole, avec du thé, donc l'équivalent de 5 ou 6 thés à peu près pour la dose, pour remplir une bouteille d'un litre. Je laisse reposer, je laisse refroidir tranquillement. J'ajoute à peu près 2 cuillères à soupe de jus de citron bio, sans sucre ajouté ni rien, pas du sirop, hein, vraiment du jus de citron. Si vous avez des citrons, c'est encore mieux. Citron vert, ça peut être encore plus intéressant, et au niveau du goût surtout. Et donc après ça, je laisse au frais. Je laisse bien refroidir, et voilà. Alors le citron, c'est pour le goût, ça apporte une petite note sucrée au goût, mais c'est aussi pour la conservation. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire la petite boisson sympa pour l'été, le thé glacé Made in Fitness Miss, ça peut le faire. En tout cas, moi, ça me convient bien pour le podcast là. Ça permet de rester bien éveillé, et puis ça fait quelque chose de sympa à boire. Voilà, mais bon, la base reste l'eau quand même. Bon, on démarre ce podcast, Alors, premier petit sujet du jour, c'est le végétarisme, un risque pour la santé mentale, point d'interrogation. Donc c'est un article de Cerveau et Psycho qui a, donc ils ont parlé d'une méta-analyse dans l'article. Alors la méta-analyse, pour les plus pointilleux, vous pouvez aller la retrouver sur le journal qui s'appelle c'est Critical Review in Food Science and Nutrition. Voilà. Donc vous pourrez retrouver cette review là-dessus. Et la review, c'est exactement le titre Meat and Mental Illness, Systematic Review of Meat Abstention and Depression and Anxiety and Related Phenomena, avec l'accent Fitness Miss. Voilà, comme ça au moins, pas de problème. Alors, Je voulais parler de ça parce que je trouve ça intéressant et que je trouve qu'il y a un petit peu des guéguerres actuellement, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, les machins, et, enfin de partout en fait. Il y a les pro-véganes, les contre, les enfin bon, ceux qui s'en foutent, ceux qui y connaissent rien et qui donnent leur avis. Là, en fait, je trouve ça intéressant pour plusieurs raisons, et c'est pour ça que je vais vous le lire tout de suite. Alors, dans cette méta-analyse, les chercheurs ont voulu savoir si, comme l'avaient suggéré des études antérieures, les personnes évitant toute consommation de viande étaient plus susceptibles de développer plusieurs types de troubles mentaux, comme la dépression, l'anxiété, et comportements d'auto-agression, comme les automutilations, le suicide ou les tentatives de suicide. Selon les résultats statistiques, sur les 18 études prises en compte, 11 font état d'une association avérée entre végétarisme et troubles de ce type. 3 indiquent plutôt une association inverse. Être végétarien serait associé à un moindre risque de troubles mentaux et 4 sont indécises. Les auteurs concluent qu'il faut adopter une attitude de mesure en matière d'alimentation. Toutefois, ils soulignent bien qu'il s'agit de corrélations et qu'aucun lien de cause à effet ne peut être identifié sur la base de ces 18 études. Selon eux, ce n'est pas forcément le régime sans viande qui favoriserait les troubles psychiques, mais les personnes souffrant de pathologies mentales pourraient se tourner vers le végétarisme pour diverses raisons, notamment car elles pourraient percevoir ce type d'alimentation comme meilleur pour la santé, donc protectrice et également plus juste et défendable éthiquement. Donc encore une fois, vous voyez cette balance entre l'état mental, le style de vie, le choix. Enfin, on peut pas. Une personne, par exemple, qui va se tourner vers le végétarisme peut avoir beaucoup d'avantages et une personne non. Et bon, là, Cerveau et Psycho, il s'attarde beaucoup sur les troubles mentaux, etc. Il y en a qui pourraient dire que forcément, quand on a parfois comme ça des troubles mentaux, on peut être carencé en certains micronutriments, acides aminés, etc. Et se priver de viande, ça pourrait causer en fait non pas une carence sévère, mais en tout cas ça pourrait éviter d'avoir un niveau satisfaisant. Il y a aussi le cas de la créatine qui est quand même aujourd'hui c'est avéré qu'il y a un rôle sur le cerveau au niveau de l'énergie, au niveau de l'évitement de la dégénérescence accélérée au niveau de neuronal. Bon, ça dans la viande on en retrouve pas mal. Il y a également certaines acides aminés qui peuvent être intéressantes. Donc est-ce que la piste va dans ce sens-là, à regarder, à observer? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ce que je tire de cet article, c'est que la grosse problématique, c'est de s'adonner à ce genre de régime en pensant, en étant convaincu que c'est forcément bon. Il faut pas s'attendre à ce que ce soit forcément bon. Et donc, ça peut parfois être ou neutre, ou ça peut aussi parfois être négatif, mais parfois positif. Donc du coup, encore une fois, je ne vais pas dire qu'on reste dans le flou, mais beaucoup de personnes diront « mais qu'est-ce qu'on fait du coup ?» Ben, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à s'analyser, on apprend à comprendre, on apprend à faire des liens de cause à effet, c'est-à-dire que quand vous suivez un type d'alimentation depuis un certain temps, est-ce que vous jugez que vous êtes plus fatigué? Est-ce que vous jugez que vous êtes plus en forme? Est-ce que vous jugez que vous avez une moindre résistance au stress, etc. Et faites les liens parce que il y a quand même, au-delà du style de vie, donc de ce que vous allez faire, c'est sûr que si vous adoptez un régime vegan en même temps que vous démarrez vos vacances, ça peut pas être significatif comme raisonnement. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous baser sur le fait que l'arrivée du régime végétarien vous a aidé, puisqu'il y a aussi l'arrivée des vacances. Donc du coup, vous changez de style de vie et c'est pas bon. Le but, c'est de le faire dans des conditions similaires. C'est-à-dire que, par exemple, dans une période de l'année qui est représentatif du maximum de semaines de votre année, quoi. Et donc voilà. Bon, ça apporte pas grand chose, mis à part que il faut pas raisonner de façon binaire avec le régime vegan. Donc il faut pas le punir, mais il faut pas non plus se jeter dessus comme quelque chose de fortement utile pour la santé, et surtout dans le monde du fitness. Hein, je le rappelle, dans le monde du fitness, on a des besoins. Alors dans le monde du fitness, quand je dis le monde du fitness, c'est pas ceux qui parlent de fitness et qui en font pas. Hein, je parle de ceux qui pratiquent, évidemment. Donc les sportifs, les sportives, etc. Donc là, il faut quand même avoir des bonnes connaissances pour avoir ce qu'il faut pour s'entraîner efficacement. Et quand je dis s'entraîner efficacement, c'est avoir un minimum d'énergie et un minimum de récupération pour pouvoir enchaîner des séances intenses. Voilà. On passe au deuxième article. Alors le deuxième article, c'est un test urinaire pour évaluer la qualité de l'alimentation. Et c'est à l'étude et c'est la nutrition.fr qui en parle. Alors je bois un petit coup. Des chercheurs de l'Imperial College de Londres, en collaboration avec l'Université de l'Illinois, ont analysé les niveaux de 46 métabolites différents dans l'urine de 1848 personnes aux États-Unis. Ces métabolites sont des composés issus de la dégradation des aliments lors de la digestion. Les résultats ont révélé des corrélations entre aliments et métabolites. Certains correspondaient à une consommation d'alcool, tandis que d'autres étaient marqueurs d'une consommation d'agrumes et de vitamine C, ou encore de viande rouge ou de poulet. Ces tests indiquent que les individus métabolisent les mêmes aliments, mais de manière très individuelle. Mieux comprendre ces différences pourrait aider à comprendre le développement de certaines pathologies liées à l'alimentation. En attendant que ces tests soient au point, diététiciens et nutritionnistes devront encore faire appel à leur questionnaire alimentaire pour suivre leurs patients. Alors oui, moi en général, quand j'essaye d'aider des personnes un petit peu en consultation, etc., je leur parle de... J'essaye d'avoir quand même un regard... global, c'est-à-dire que souvent les personnes quand elles me contactent, elles vont me donner, en fait quand elles me contactent c'est qu'elles sont déjà dans un certain élan de se reprendre en main, donc elles ont déjà induit une certaine petite modification au niveau de l'alimentation et donc parfois elles arrivent avec un régime qui est plutôt bien ficelé et donc du coup elles arrivent avec cet argument qui est bon voilà, mon régime n'est pas forcément mauvais, regarde ce que je fais et je suis plutôt d'accord avec ces personnes là. Et elles me disent pourtant j'y arrive pas. Mais en fait c'est qu'elles ont une durée qui est c'est trompeur. C'est-à-dire que elles ont démarré ce régime depuis 15 jours et elles ont pas de résultat. Mais en fait c'est pas ces 15 jours qui valent, c'est les années qu'il y a eu avant. Et moi j'essaye de voir plutôt globalement cette dernière année comment tu t'es alimenté, depuis quand tu suis ce type d'alimentation, quels sont tes réflexes, ton alimentation est en dents de scie, c'est-à-dire que tu as des périodes où tu fais très attention et des périodes où tu te relâches. Enfin bon, il y a tout ça, donc cette idée de questionnaire, il est plutôt individuel en fonction des alors je vais dire et des coachs et des nutritionnistes etc. En fonction aussi des types de personnes qu'on a en face, hein, si c'est un sportif ou un sédentaire etc. Mais bon bref, là ça pourrait quand même, ce test urinaire, à voir si c'est significatif évidemment, parce que encore une fois dans les urines on trouve certaines choses, mais à voir si ça peut donner des pistes supplémentaires. Mais parce que si on peut voir la dégradation lors de la digestion de certains aliments, par exemple comme les protéines, ça peut être intéressant, comme les glucides ou les lipides, ça peut être intéressant pour le sportif, et notamment le sportif qui fait à but esthétique comme le fitness, ça peut être intéressant de voir ce qu'il en est. Donc c'est à suivre, pour l'instant c'est au niveau des études, faut faire attention parce qu'il y en a qui vont essayer de vous le vendre un peu précocement alors que ça sera pas forcément quelque chose de pertinent. Faut attendre, faut suivre un petit peu. Et ben voilà, moi je voulais vous donner cette actu parce que je trouve ça intéressant à titre individuel, de manière à pouvoir encore avoir des données sur soi-même, et plus largement, on va dire pour la population à titre santé, prévention, etc. Pour les médecins, ça pourra les aider, des médecins généralistes par exemple, qui n'ont pas forcément des notions extraordinaires en nutrition. Ça pourra peut-être les aider, leur indiquer un petit peu, leur donner des pistes, et peut-être après, de manière à pouvoir prescrire après des prises de sang un petit peu plus ciblées que le basique magnésium, cholestérol, j'allais dire diabète, c'est pas diabète, c'est glycémie à jeun, etc. Moi, je trouve ça intéressant. De toute façon, ça fait des outils supplémentaires. Il faut pas cracher dessus parce que faut attendre de voir ce que ça peut donner au niveau grand public, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les petites actus. Je sais que ça vous intéresse pas forcément les actus. Moi, j'aime bien vous les partager parce que quand même, ça permet un petit peu de rester dans le flow. On va passer aux questions. Question des auditeurs. Alors la première question, c'était une question portant sur le déficit calorique. Alors c'est bonjour, à combien démarrer un déficit calorique ? J'entends tout et son contraire, déficit agressif ou progressif, et merci pour ton contenu. Bon, question brève, question simple, mais qui pourrait prendre un podcast entier. Mais bon, je vais essayer d'y répondre le plus simplement, parce que dans le podcast, je sais que vous l'écoutez plutôt tranquillement. En faisant votre sport, en faisant vos étirements, etc. Donc on va y aller léger, on va pas se prendre la tête. Alors première chose, tu entends tout et son contraire par rapport à ça, ben c'est un petit peu normal parce que, admettons, je vais prendre un exemple concret, une personne qui pèse 90 kilos, plutôt sèche, qui fait de la musculation et tout, qui fait, je sais pas, on va dire 1m95 ou 1m95, 90 kilos, donc qui a 5 kilos de moins que sa taille. Cette personne-là, si elle démarre un déficit calorique, forcément, son déficit calorique va être bien plus élevé, bien plus élevé en termes purs de valeur calorique qu'une personne qui fait 70 kilos et qui mesure 1m75. Si la personne qui démarre son déficit calorique, celui d'1m75 qui fait 70 kilos, fait la même diète que celui qui fait 1m95 et 90 kilos, eh ben le plus léger des deux sera plutôt en prise de masse, alors que l'autre, il sera plutôt en perte de graisse. Donc le déficit calorique est très individuel. Ce déficit calorique, encore une fois, faut faire attention et pas tomber dans l'excès, qui est que peu importe le régime que tu adoptes, seul le déficit calorique compte, oui, effectivement, pour perdre du poids, seul le déficit calorique compte, mais dans le poids, il y a de l'eau, dans le poids, il y a du gras, et dans le poids, il y a du muscle. Donc, le déficit calorique, il marche pour perdre du poids. Après, le ratio entre muscle, eau, graisse, va différer en fonction de la qualité de ce que tu vas manger. Quand je dis la qualité, c'est un déficit calorique peut être majoritairement basé sur les glucides, mais aussi sur les graisses, ou alors sur les glucides et les graisses, ou alors tout, c'est-à-dire les glucides, les graisses et les protéines. Donc du coup, ce fameux déficit calorique, il faut vraiment bien le comprendre, c'est-à-dire que le sportif ne peut pas trop se priver de protéines, surtout le sportif de force, sinon il va finir complètement rincé, épuisé, perte de force, perte de masse musculaire, etc. Donc bon, je vais pas faire le détail là ici, mais ce fameux déficit calorique, comme tu dis, à combien démarrer ? Moi, je te recommanderais dans un premier temps, si tu es actuellement dans une diète de maintien correcte, c'est-à-dire une vraie diète de maintien et pas une diète où ton métabolisme, tu sors d'une sèche, tu as remonté un peu tes calories, mais ton métabolisme est quand même cramé et ralenti. Donc du coup, ça, c'est une fausse valeur de maintien. C'est une valeur qui s'est adaptée à ton métabolisme qui a ralenti à cause du régime. Donc là, par contre, il faut remonter progressivement les calories, de recommencer à se familiariser un peu avec les hydrates de carbone tranquillement pour que ton métabolisme reprenne un petit peu une vitesse de croisière. Et à partir de là, tu peux définir ta vraie valeur de maintien. Donc ton vrai chiffre, on va dire, pour te maintenir. Donc ensuite, à partir du moment où tu as ta base, donc ta base, c'est quoi ? C'est ce qui te permet d'être bien, d'avoir de l'énergie, de bien dormir, de bien t'entraîner, de bien congestionner, etc. Mais t'es pas ultra sec, t'es pas ultra gras, tu maintiens tes perfs, etc. Ça, c'est ta diète de maintien, entre guillemets, au niveau ressenti, au niveau sur le terrain. Voilà comment ça peut se ressentir. À partir de là, si tu engages déjà un déficit de 200 ou 300 calories maximum, tu vas avoir des résultats. Après, ta question portait plus sur ce fameux déficit agressif ou progressif. Là encore, moi, je suis modéré. qui peut faire un progressif et qui peut faire un agressif. Une personne qui peut adapter une diète progressive, en règle générale, c'est une personne qui est déjà engagée dans le fitness, dans la remise en forme, depuis un certain nombre de temps. Pourquoi j'ai cet argument-là ? Parce que c'est une personne qui a déjà ancré des bonnes pratiques alimentaires, qui a déjà un certain rythme de vie au niveau sportif, c'est-à-dire que cette personne s'est habituée à faire du sport régulièrement, quasi quotidiennement, et donc du coup cette personne peut induire un déficit calorique progressif parce que elle a moins de chances d'abandonner la musculation, la course à pied, si elle fait de la course à pied, etc. Donc du coup, étant donné qu'elle a déjà des bons réflexes au niveau style de vie, le déficit progressif va être peut-être plus agréable pour elle. Et donc, si elle a une bonne masse musculaire, ça va peut-être lui éviter aussi de trop cataboliser d'un coup. Donc ça peut être intéressant. Mais par contre, pour une personne qui débute, un déficit calorique progressif va donner des résultats à la fois progressif et à la fois, on va dire, assez peu perceptible par elle-même, donc par l'individu, qui seront perceptibles par l'entourage au bout de 3-4 mois. Mais dans l'immédiateté, on va dire, dans la première semaine, dans les 15 premiers jours, ce déficit ne sera pas suffisant au niveau visuel. Et donc, du coup, on a un taux d'abandon qui dépasse, à mon sens, les 50% dans ce genre de régime, dans ce genre de population-là. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes restent en surpoids, parce que elles sont souvent guidées par ce déficit progressif, et ce déficit progressif induit un taux d'abandon supérieur, on va dire, au taux d'acceptation ou de validation ou de maintien. Alors beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais Théo, le progressif, c'est quand même celui qui est le plus sain pour la santé, etc. » Je suis pas contre cette idée, mais la problématique, c'est le surpoids. Moi, je parle toujours du réel problème. Le réel problème, c'est la personne, quand elle souhaite faire un déficit calorique, donc qu'elle se juge en surpoids, le surpoids est potentiellement dangereux pour la santé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas moi qui avance ça, c'est pas une hypothèse que j'avance, c'est quand même un fait avéré. Il y a la santé au niveau du métabolisme, la santé métabolique est liée quand même au tour de taille. Donc quand une personne a un fort tour de taille, beaucoup de graisse viscérale et tout, elle a un facteur de risque qui est amplifié pour les maladies cardiovasculaires, pour les maladies aussi de type diabète, cholestérol, et même certaines maladies au niveau de la santé mentale, mais globalement aussi pas mal de maladies auto-immunes, etc. Donc faut faire attention de ne pas tomber dans le côté « le régime agressif est dangereux, donc je le fais pas, donc je reste avec mon gros ventre ». C'est, je pense que moi, c'est un mauvais raisonnement de raisonner comme ça, de troquer 3 mois d'un régime agressif contre toute une vie d'un surpoids et potentiellement de facteurs de risque. Ou enfin bon, voilà, il faut voir un petit peu quel risque est-ce qu'on a envie d'avoir un risque très long terme ou d'avoir un risque court terme. Bref, c'est un petit peu comme les médicaments, vous savez. Les médicaments, certains médicaments, quand vous avez un peu mal au crâne, par exemple, vous prenez un médoc, et ben, parfois ça vaut pas le coup de le prendre parce que par rapport aux effets secondaires du médoc, vous allez avoir peu d'avantages. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup de risques avec les effets secondaires par rapport au peu d'avantages qui est de faire passer une petite migraine légère. Alors qu'une personne qui a vraiment une migraine à se taper la tête contre les murs, ben elle est prête à accepter les effets secondaires parce que sa douleur est telle, c'est vraiment insupportable, et donc du coup les effets secondaires sont acceptables. Alors j'ai pris le cas des migraines qui est pas forcément un bon exemple. Je pense que des médecins pourraient me donner des exemples beaucoup plus significatifs que ça dans certains cas, dans certaines maladies. Mais en gros, c'est ça, quoi. Par exemple, dans le diabète, prendre un médoc qui immédiatement va vous aider à ne pas tomber ou dans le coma ou à faire une hyperglycémie ou quelque chose qui va vraiment vous balayer comme ça du revers de la main, c'est quand même quelque chose, il faut le faire. Enfin, je veux dire, faut pas attendre. Quand c'est dans l'immédiateté comme ça, faut le faire. Donc il y a toujours ce côté avantage et inconvénient, mais bénéfice-risque. Donc quel est le bénéfice à long terme de ne pas faire de régime agressif ? Bah peut-être que c'est de rester en surpoids, si la personne n'est pas capable d'en faire un progressif. Donc maintenant je vais parler du déficit agressif. Donc le déficit agressif, c'est quoi ? C'est, admettons, vous êtes en surpoids ou même voilà, vous êtes pas forcément en surpoids quand on vous voit dans la rue, on va pas dire vous êtes gras, gros, enfin bon bref, voilà, vous êtes pas quelqu'un de qualifié d'obèse ou obésité morbide, etc. Mais vous faites du sport depuis un certain nombre de temps, mais vous avez jamais perdu votre gras. Donc, vous jaugez, vous, que vous avez à peu près 5 à 7 kilos à perdre. Et moi, si je vous voyais, je vous dirais que ce serait plutôt 10 à 15, parce qu'on a toujours tendance à se sous-évaluer, à surestimer sa quantité de muscle quand on n'a jamais fait de sèche, et à sous-estimer la quantité de gras qu'on a à perdre. Donc, en général, quand vous pensez avoir 5 kilos à perdre, vous en avez 10. Si vous voulez être sec avec des abdos apparents, etc. Bref. Donc, vous, voilà. Vous avez ce gras à perdre, et là, vous avez deux options. Choisir le déficit progressif ou choisir le déficit agressif. En règle générale, déjà, vous avez tendance à calculer, souvent, je le vois, votre diète par rapport à votre poids de corps. Mais si votre poids de corps est à 10 kilos de graisse au-dessus de votre poids de forme, de votre poids, quand je dis un poids de forme, c'est un poids de forme avec les abdos apparents, c'est pas un poids de forme performance, c'est tronqué, parce que vous basez artificiellement un besoin en protéines basé sur un poids de corps qui n'est pas le vôtre réellement. C'est-à-dire que vous vous basez sur un poids de corps gras compris, avec un excès de 10 kilos de gras, et là, c'est pas cohérent. Donc du coup, il faudrait plutôt se baser sur le poids de corps cible une fois sec. Ça, c'est mon point de vue au niveau des protéines. C'est-à-dire qu'une personne qui pèse... Parce que, imaginez un cas de figure. Une personne qui mesure 1m70 et qui fait 85 kilos, donc plutôt gras, mais avec de la masse musculaire. S'il compte ses protéines sur ses 85 kilos, forcément qu'elle va avoir le même apport en protéines qu'une personne qui va peser 85 kilos sec. Donc une personne sèche de 85 kilos pour 1m70 va avoir le même nombre de protéines par jour que celui qui en fait 85 kilos mais qui a du gras. Et là, c'est pas cohérent, puisqu'on n'a pas la même masse musculaire à nourrir. Donc, du coup, il y a un bug. Donc, c'est là où je vous dis que toutes ces histoires de macro et tout, c'est complexe. On peut pas se baser sur des chiffres comme ça, rapides. C'est pas possible. Donc, du coup, le déficit agressif, c'est quoi? Le déficit agressif, ça va être plutôt d'essayer d'évaluer la quantité et raisonnablement, c'est-à-dire objectivement la quantité de gras qu'on a à perdre. Donc dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes pratiquant naturel, c'est relativement rare d'avoir un poids de corps sec au-dessus de sa taille. Donc si vous faites 1m75 et que vous faites 75 kilos et que vous avez tous les abdos apparents plutôt secs globalement sur le corps, vous commencez à avoir un niveau plutôt acceptable. Hein, je vous le dis honnêtement, il y a peu de personnes qui ont votre niveau. Vous êtes quand même, je vais pas dire que vous êtes la fine fleur des naturels, mais vous commencez à avoir un niveau plutôt correct. Quand vous êtes à taille moins 5 kilos, donc 1m75, 70 kilos, vous êtes aussi, et en étant sec, vous êtes aussi dans une bonne moyenne des pratiquants qui savent bien faire les choses, etc. Donc, si vous êtes à 1m80, 85 kilos, ça, c'est pareil aussi. Si vous êtes à 1m80 et 80 kilos sec, c'est pareil aussi. Mais quand vous commencez à être 1m80, 85 kilos sec, là, vous sortez vraiment du lot. J'ai vu peu de personnes avoir un poids de corps sec, naturellement, très élevé par rapport à leur taille. Il y en a, mais c'est rare. Et moi, je vous dirais pas qu'ils sont tous dopés au-dessus, parce que je serais pas aussi sec, pas sectaire, mais comme on pourrait dire, binaire que ça. Mais c'est relativement rare et généralement ces personnes-là, vous les trouvez rarement dans la vingtaine ou dans la trentaine, c'est plutôt des personnes qui ont 40, 45 ans et qui ont jamais abandonné l'effort, qui se sont entraînés vraiment dur pendant des années. Et en général, ils sont pas à 5 kilos de plus, ils sont plutôt à 1, 2, 3 kilos de plus. Voilà, c'est mon point de vue, encore une fois, et je le partage, je sais, avec pas mal de pratiquants, mais encore une fois, ce n'est que de l'observation, voilà. Donc du coup, ce déficit agressif, ça va être quoi? Ça va être plutôt se baser sur la cible. Donc c'est-à-dire, ok, objectivement, j'ai 10 kilos de gras à perdre, et ben je base ma diète directement sur ce poids de corps cible. Donc du coup, tous mes chiffres, tous mes macros vont être beaucoup plus bas que si je m'étais basé sur mon poids actuel. Et donc le déficit va être plus agressif dans le sens que, admettons, si la personne était à une diète à 2500 calories, et ben elle va être rapidement à 1800 calories. Rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va être la première semaine, elle va être à 2000, et puis elle va rapidement baisser, elle va retirer encore 200 calories les semaines suivantes. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Parce que c'est important de dire la réalité des choses. Cette personne-là va certes perdre beaucoup de graisse, beaucoup de rétention d'eau, beaucoup de poids sur la balance, mais elle va également perdre du muscle, comme tous les régimes. Mais le point positif de ce genre de régime, c'est que les résultats sont visibles. Dans le miroir, au niveau des vêtements, aux yeux des autres, et c'est un puissant facteur de motivation. Après, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut pas aller au-delà, donc en dessous, parce que au-delà, c'est pas le terme exact, il faut pas descendre en dessous de ces besoins caloriques primordiaux, on va dire, c'est-à-dire le métabolisme basal, comme ceux qui peuvent l'appeler, c'est-à-dire ce fameux métabolisme qui exclut en fait toute dépense calorique liée au style de vie. C'est-à-dire les dépenses caloriques de « je vais bosser, je prends le métro, j'ai un métier sédentaire, j'ai un métier actif, de ma séance de sport, etc. » Toutes ces dépenses caloriques-là sont exclues et on garde que le métabolisme basal, c'est-à-dire celui qui nous sert à faire fonctionner tous nos réflexes automatiques, la digestion, la réflexion, le cerveau, enfin bon, bref, toutes ces choses-là. Donc si vous descendez au-delà de ça, là, à mon sens, et pour avoir testé, c'est là où vous avez beaucoup d'effets secondaires au niveau de la vitalité, parce que vous êtes vraiment fatigué et tout. Par contre, vous perdez beaucoup de poids aussi, hein, mais bon, c'est pas tenable et c'est pas raisonnable dans le sens où vous allez vraiment vous cramer. Et c'est pas le but, parce que si vous vous cramez, vous allez à l'inverse verrouiller votre métabolisme, faire de la rétention d'eau, perdre vos perfs, perdre du muscle, et votre physique va vraiment pas ressembler à ce que vous avez envie d'avoir. Donc, un déficit agressif, oui, jusqu'à la limite du métabolisme basal. Ne pas trop descendre en dessous. Je sais qu'il y en a qui le font en période de préparation de shooting photo ou de compétition, mais c'est parce que c'est pour un besoin aigu, c'est-à-dire un événement à un jour donné, à une heure donnée, et qu'après on se réalimente. On reste pas dans cet état-là longtemps. Et le problème de l'amateur qui n'a pas ni shooting ni compétition, c'est qu'à la fin de ce genre de déficit agressif, très agressif, trop agressif, il veut conserver ça. Et c'est là où est le problème. C'est parce que vu qu'il a pas de contraintes de temps liées à un événement spécial, il va vouloir conserver ça le plus longtemps possible parce que lui, son objectif, c'est pas une compétition ou un shooting, c'est de conserver ce physique tout le temps. Et c'est là, en fait, où la personne tombe dans le piège et à terme, verrouille un peu son métabolisme à une vitesse qui n'est pas raisonnable, c'est-à-dire beaucoup trop basse. Et donc, du coup, elle souffre de tous les troubles liés au métabolisme ralenti. Bon voilà, je veux beaucoup de blabla là-dessus. Moi personnellement, j'ai l'ouvrage que j'ai écrit se base plus sur les déficits agressifs. Pourquoi ? Parce que je vais pas vous mentir, des années après l'avoir fait, vous dire non, c'est plus raisonnable un progressif, etc. Je vous ai donné mon point de vue dans ce podcast-là. Le progressif peut fonctionner pour certaines personnes. Je pense qu'il est plus cohérent pour la santé, mais l'agressif donne plus de résultats, plus rapidement et il est plus motivant. Et après, chacun prend sa responsabilité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je parle de mon expérience. Chacun prend sa responsabilité en fonction de son, ben voilà, de son état de santé, des recommandations de son médecin, etc. Tout le monde est adulte. Aujourd'hui, si vous êtes adolescent et que vous voulez suivre un régime, ben voilà, il y a avec vos parents, votre tuteur, votre médecin, etc. Mais chacun est adulte et libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis pas prescripteur, entre guillemets, ou médecin, ou tout ce que vous voulez. Je donne juste mon point de vue. Et je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse, d'aller voir ce que j'ai écrit sur le sujet. De mémoire, dans la description, c'est tout simplement mon ouvrage sur la perte de graisse. J'ai écrit ça comme ça, et vous avez le lien, vous pouvez aller voir. J'ai réuni finalement dedans l'ouvrage que j'avais écrit avec les 6 semaines de diète agressive, plus vous avez 3 heures d'audio, parce que maintenant j'ai regroupé, je l'ai mis dans un pack en fait complet avec la formation perte de graisse, donc rester sec, qui en fait c'est partie 1 à l'écrit, partie 2 plutôt en audio, donc plutôt comme un podcast, mais bon, ça dure plus de 3 heures, une partie style de vie, une partie entraînement, une partie nutrition, et avec des concepts, etc., et surtout pour réussir à rester sec sur le long terme sans justement subir ces problématiques liées au métabolisme qui s'effondre, parce que le but c'est pas ça, le but c'est être en forme et de se sentir bien, de pouvoir quand même avoir une vie sociale cohérente. Ça sert à rien d'être beau et d'avoir une vie de merde. En fait, il faut réussir à conjuguer les deux et que ce soit tenable, quoi. Voilà. Donc voilà pour ma réponse à ta question par rapport au déficit agressif et progressif. Deuxième petite question, je vais y répondre rapidement. Bonjour Théo, est-ce qu'une femme peut faire votre programme sèche ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas réellement de différence. Seulement au niveau de la nutrition, mais j'en parle rapidement par rapport aux femmes. Il y a quelques petites variantes, surtout liées aux hormones. et surtout aux périodes, aux cycles durant le mois où il y a des périodes où vous êtes plus propice à stocker et des périodes où vous êtes plus propice à brûler, entre guillemets. Donc il y a des périodes où il faut faire attention à votre consommation d'aliments denses. Et il y a des moments où justement il faut pas abandonner le sport, et à l'inverse des périodes où vous pouvez en profiter pour lever un peu le pied, pas forcément sur la diète mais sur les efforts physiques, donc quand vous sentez que vous êtes épuisé, etc. Donc ça, oui, j'en parle. Ça, je te recommande d'aller en VIP, surtout j'avais fait un gros contenu pour les femmes avec le programme, etc. Donc je t'invite à aller faire un saut là-bas, tu trouveras des réponses à tes questions. Et la troisième question, c'était: bonjour Théo, j'aurais voulu avoir ton avis, penses-tu qu'il y a un risque sur le long terme? Attendez, je bois une petite gorgée parce que sinon je vais bafouiller. Alors voilà, je reprends la question. J'aurais voulu avoir ton avis. Penses-tu qu'il y a un risque sur le long terme de consommer 2 grammes de lipides par kilo de poids de corps, ayant un travail sédentaire et ne faisant qu'une séance de muscu 6 fois par semaine? Donc tu t'entraînes plutôt pas mal. Ne faisant qu'une séance de muscu 6 fois par semaine. Donc tu fais 6 séances de muscu par semaine. Je n'ai pas besoin de beaucoup de glucides, mais surtout je prends pas mal de gras, même pour une quantité raisonnable selon mon poids. Donc du coup tu prends du gras avec pas beaucoup de glucides, ok. Donc 2,2 grammes de glucides par kilo de poids de corps pour 64 kilos. Même à calories de maintenance, mon physique n'est pas le même. Est-il possible de rester comme ça, ou penses-tu qu'il y a un travail sur la sensibilité à l'insuline à effectuer? Alors, rapidement, je vais te dire ce que j'en pense. Donc déjà, je vais faire le petit calcul pour tous ceux qui m'écoutent, comme ça ils n'auront pas besoin de le faire, pour ta quantité de glucides. Donc tu as 140 grammes de glucides par jour, ce qui n'est pas excessif. Souvent, quand on est en diète bas en glucides, on dit qu'on est en dessous de 150 grammes. Donc effectivement, tu as moins de 150 grammes de glucides par jour. Mais bon, tu pèses 64 kilos aussi. Même à calories de maintenance, mon physique n'est pas le même. Est-il possible de rester comme ça, ou penses-tu qu'il y a un travail sur la sensibilité à l'insuline à faire? Bah, tu sais, le travail sur la sensibilité à l'insuline à faire est lié... Tu vois, tu consommes beaucoup de graisse. Les graisses, c'est là où beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Ils ont vu, ok, régime bas en glucides, donc on monte les graisses, et on monte les graisses pour monter les graisses. Et la culture un petit peu américaine a amené toutes ces graisses venant du bacon, du beurre de cacahuète, de la friture ou de certaines choses comme ça. Ils se disent, bon, en diète cétogène, en diète low carb, on peut en consommer parce qu'on n'a pas de glucides, etc., etc. Bref. Mais finalement, ces graisses-là, il faut pas oublier qu'elles ont aussi un rôle sur l'inflammation, mais aussi sur un rôle sur la résistance à l'insuline. Donc écoute-moi bien là-dessus, les graisses ont un impact et peuvent influencer la résistance à l'insuline. Donc du coup, dans tes 2 grammes de lipides que tu as par jour, moi je trouve que c'est un petit peu élevé. Je pense que même quand on est dans une diète vraiment en dessous même de tes 140 grammes de glucides, il faut descendre les lipides, faut pas les... À mon sens, hein, moi je parle encore, c'est mon point de vue, attention. Déjà, quand tu as 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps, t'es quand même déjà assez élevé. Je te parle encore une fois, si t'as un objectif d'avoir plutôt les abdos apparents, etc. Et donc du coup, dans ces graisses-là que tu as au quotidien, ça fait quand même un apport en graisse, donc un apport calorique qui est assez significatif. Parce que faut pas oublier une chose, c'est que les graisses, c'est 9 calories par gramme. Donc de 1 gramme de graisse et 9 calories. Donc je vais faire le calcul encore une fois pour les personnes qui nous écoutent. Donc alors 64 fois, tac, attendez, je fais juste le calcul. Ça te fait exactement, tu as 1152 calories par jour provenant des graisses. Donc c'est pas rien, c'est quand même assez important. Et dans ces graisses, beaucoup, tu dois avoir quand même des graisses saturées, tu dois avoir des graisses un petit peu trans, etc. Eh ben ça, malheureusement, ça peut aussi induire une petite résistance à l'insuline, donc du coup par l'inflammation, etc. Au niveau cérébral en plus, donc tu peux en subir une certaine fatigue, un certain manque d'énergie, et donc tu peux fonctionner au niveau mental un peu moins bien, mais aussi au niveau physique. Donc, la sensibilité à l'insuline, c'est lié à ta nutrition, mais c'est aussi beaucoup lié à ton style de vie. Donc là, je t'ai juste donné quelques points de recherche. J'ai beaucoup parlé là-dessus dans l'espace VIP sur ces fameuses graisses-là. Mais je vais aussi te parler d'un point de vue activité physique. Comme tu le dis, tu es sédentaire, tu fais du sport une heure par jour, 6 fois par semaine, ce qui est très bien. C'est-à-dire que tu bouges un petit peu au quotidien. Mais une heure de sport dans la journée, il te reste 23 heures à combler. Ces 23 heures, tu vas dormir pour récupérer, mais il y a aussi ce côté où tu vas devoir travailler, etc. J'en parlais rapidement dans ma newsletter du privé, les mails que j'envoie à ceux qui m'ont fait confiance et qui veulent recevoir ma newsletter. Donc encore une fois, vous avez le lien qui s'appelle « Mes news du matin » dans la description. Je parlais de mes 5 tips, donc mes 5 conseils pour garder les abdos... j'appelais ça mon journal intime, je vous ouvre un peu mon journal intime, mes petites bottes secrètes en gros. Et en fait, il y avait un des conseils, c'était que quand je bosse, par exemple, quand je fais un tournage, moi, je vais essayer de faire un tournage debout pour augmenter le temps que je passe debout dans ma journée, parce que j'ai un travail aussi où moi, je suis devant un écran. Hein. Et puis, par exemple, quand je passe un coup de fil, que ça soit un coup de fil professionnel ou avec des amis, je marche. Alors, je peux marcher à l'intérieur de mon logement, donc je fais des tours dans mon salon et tout, je marche. Ou sinon, je prends mon casque et je me casse. Je vais faire le tour du lotissement en parlant, en faisant mon rendez-vous. Le dernier rendez-vous que j'ai eu, c'est avec Nutrimuscle d'ailleurs, le patron de Nutrimuscle, on a discuté un petit peu ensemble. Et pendant que j'étais au téléphone avec lui, je suis parti marcher dans mon lotissement. On a un petit peu parlé de la gamme des produits qu'ils font, etc. Parce que j'avais envie de proposer un petit avantage pour les VIP chez Nutrimuscle. Et donc du coup, que j'ai réussi à obtenir d'ailleurs, on a réussi à s'entendre sur quelque chose. Et après, on a parlé un petit peu de sport et de nutrition parce que visiblement, c'est le patron a l'air passionné. Et on a parlé un petit peu plus d'ailleurs de ça que de business, si je peux dire les choses comme ça, même si c'est pas vraiment du business que je fais avec eux, puisque c'est juste moi proposer un avantage. Les VIP, en fait, quand ils deviennent VIP, ils ont un avantage, je vous le dis tout de suite, de 14 ou 15 euros chez Nutrimuscle. C'est-à-dire qu'ils ont un cadeau supplémentaire. Vous savez, quand vous commandez chez Nutrimuscle à partir d'un certain montant, vous avez un cadeau qui équivaut à peu près à 14, 15 euros, une boîte de 120 gélules. Et ben, moi, voilà, ceux qui sont VIP, ils auront ce cadeau-là plus un autre avec un code. Donc moi, je gagne rien. C'est juste que les VIP qui me font confiance, donc qui s'abonnent à mon site, ont cet avantage supplémentaire. C'était moi l'idée que j'avais d'un vrai avantage client, quoi, en gros. Donc du coup, on a parlé de pas mal de choses et ces rendez-vous, moi, je les fais en marchant. Et ça augmente finalement, pour répondre à ta question, ça augmente ta dépense. Ton activité physique au quotidien et tout ce qui va augmenter un petit peu ton travail musculaire au quotidien va améliorer un petit peu ta sensibilité à l'insuline. Et ce n'est pas consommer plus de glucides comme pourraient dire certains, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même tes récepteurs, c'est pas en donnant plus. En fait, si, tu vas faire de plus en plus de gras, mais ça veut pas dire que tu auras une meilleure sensibilité à l'insuline. Par contre, tu auras une super sensibilité à faire du gras. Donc du coup, il faut la sensibilité à l'insuline se travaille par l'activité physique, mais également par ta diététique, par l'inflammation, etc. Avoir trop de graisse et faire trop confiance aux graisses, c'est pas une bonne idée. Il faut faire attention, faut rester dans une limite. Donc, il faut pas en avoir trop peu également, parce que là, c'est la chute hormonale et au niveau cellulaire, etc. On en a besoin, au niveau cérébral aussi. Et je vais pas dire des bonnes graisses, parce que bonne graisse, mauvaise graisse, c'est toujours. Et on va dire dans un bon ratio. Voilà, pour être plus exact. Mais ça sera pas en augmentant les glucides que tu vas augmenter ta sensibilité à l'insuline. Parce que t'as pas un niveau nul en glucides. T'as 140 grammes, c'est peu, c'est très peu pour un sportif. C'est plutôt dans une période, on va dire, où on veut attaquer un peu le gras. Mais ça n'est pas non plus nul. Donc voilà. Voilà pour le podcast du jour. Si vous avez des questions comme ces 3 auditeurs, vous avez un lien dans la description qui s'appelle « Posez votre question ici », un petit formulaire anonyme, donc je n'aurai ni votre adresse email, ni votre prénom, ni rien du tout. C'est le but, comme ça vous pouvez même me poser une question dérangeante. Quand je dis une question dérangeante, c'est une question que vous n'oseriez pas poser si je connaissais votre identité. Et donc, du coup, plus les questions sont pointues comme ça, plus ça peut intéresser des gens, parce que forcément, les questions dérangeantes, personne n'ose les poser. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ce formulaire de questions en ligne. Je m'arrête ici, à très bientôt. Merci à tous pour votre fidélité, tous vos avis, et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.